Essence Inter.
Vous connaissez notre situation. Nous avons dû fuir la cour et depuis nous sommes bien seuls. Nos amis se font rares et les lieux où nous sommes en sécurité le sont aussi.
Elles savent qu'on va venir les prendre. Elles le savent d'un savoir obscur.
Elles attendent parce qu'elles ont envie, parce qu'elles sont prêtes.
Il ne faut pas les décevoir.
Albert Serra est ce soir notre invité à l'occasion de la sortie de son nouveau film Liberté, qui a été récompensé à Cannes et qui sort sur les écrans. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Jeannette.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Albert Serra, on vous a découvert il y a quelques années avec ce remarquable film « Honneur de la Cavalleria » qui était consacré à une adaptation de Don Quichotte. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez continué à signer des films corrosifs, bouleversants, radicaux, « Histoire de ma mort ». L'avant-dernier film était consacré à « Histoire de ma mort », un dialogue crypté entre Dracula et Casanova. Votre dernier film sort sur les écrans et s'intitule Liberté. C'est une adaptation du Marquis de Sade et aussi d'une vision de l'amour à la fin de la Révolution française. Où avez-vous passé votre enfance et comment s'est-elle passée cette enfance, Albert Serra?
Moi, je suis né à la campagne, au nord de Barcelone, pas loin de la frontière avec la France, à Figueras, à côté de Figueras. Mes grands-parents sont de Figueras, où il y a les musées d'Ali, etc. Et c'est très bien passé, très simple. Moi, je suis fils unique, alors j'étais assez solitaire. Et une famille typique. Ma grand-mère était couturière, ma mère aussi couturière, avec son petit atelier. J'ai grandi, mon père était un peu dehors, plus non, il voyageait un peu. J'ai grandi plutôt avec ma grand-mère, ma mère, en train de voir comment ils travaillaient et faisaient des costumes pour les femmes du village. Très bien passé, très sympa, facile. J'ai aucun regret, rien à me plaindre.
Que vous ont-elles appris, votre mère et votre grand-mère?
Je ne sais pas, peut-être l'idée de la discipline du travail, parce que ma grand-mère, elle a maintenant 95 ans, elle travaille encore 8 heures par jour comme couturière, comme il faisait à 65 ou à 55, rien n'a changé pour elle. Alors peut-être cette vision dans le long terme de n'importe ce que tu fais, ça a été important. Elle travaille encore, évidemment, avec ma mère, qui est 69 ou 70. Et bon, ce sont les deux encore. Et même dans le même village, il y avait un type qui avait gagné la médaille en Espagne pour être le type qui avait plus travaillé, qui a fait de plus de cotisations dans la sécurité sociale. En France, je crois que c'est la même chose, qui a cotisé plus d'années. 68, je crois, qui avait payé de la cotisation, c'est-à-dire qu'il avait fait une carrière comme travailleur. Alors ça m'a, je sais pas, ça m'a peut-être marqué.
Il y avait un cinéma, Figueras?
C'est pas Figueras, c'est Bagnolas. Ils sont de là, mais nous, notre village était à côté. Oui, on y allait souvent, mais j'étais très petite parce qu'après il a disparu. Et bon, je me souviens des typiques de Superman et des choses comme ça, et des autres films après. Les Costurizza, même, j'ai arrivé à voir quelques films de Costurizza, les premiers films de Costurizza là. Et bon, c'était un peu varié.
Ben, je vous propose d'écouter Louise Buñuel qui va parler de sa vision du cinéma. C'est une archive de 1958.
À ce moment-là, je n'étais pas un metteur en scène. J'aimais beaucoup le cinéma. J'étais assistant d'Epstein, comme vous savez. Mais le cinéma était un moyen d'expression pour aider dans notre lutte poétique, sociale, etc., les groupes surréalistes. Donc j'ai employé les images comme d'autres ont employé la poésie ou la peinture. Je ne connaissais pas de producteur, ni personne, je n'étais pas dans les milieux du cinéma. Alors ma mère m'a payé Les Chiens Andalous. C'est une bonne femme, bourgeoise, très catholique, elle ne savait pas ce que j'allais faire. Elle m'a payé Les Chiens Andalous. Après les Vicomtes de Noailles, grâce à Cocteau, Bérard, tous les gens de l'époque, m'ont proposé de faire L'As d'Or. C'est-à-dire un film. J'ai fait le scénario et j'ai réalisé L'As d'Or. Voilà la raison. Mes rapports avec le mouvement surréaliste, c'était un surréaliste très convaincu. Et j'ai passé certaines disciplines merveilleuses pour moi, pour le reste de ma vie. Et c'est un grand souvenir pour moi.
Impossible de ne pas penser à Louise Buñuel quand on voit votre cinématographie, Albert Serra. Que représente-t-il pour vous? Et est-ce qu'il vous a indiqué la voie? Il pourrait être votre arrière-grand-père, mais ouais. Il peut être important dans votre imaginaire.
Oui, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'attitude, c'est-à-dire l'attitude de tous les jeunes qui ont néo qui ont commencé à faire des choses dans les avant-gardes classiques du XXe siècle. Alors là, il y avait vraiment cette attitude incorruptible, non, des gens qui sont pour l'art, strictement pour sa propre vision artistique et pour rien d'autre. Alors lui, il a continué fidèle à cette vision jusqu'à les derniers films, jusqu'à les derniers moments de sa vie. Aussi, cette attitude un peu, comme on vient d'écouter, il ne donne pas beaucoup d'importance au cinéma, même il méprise un peu le cinéma comme art, non? Cette idée, c'est aussi dans ma tête un peu, parce que moi j'aime beaucoup la littérature et j'ai toujours pensé que bon, n'importe quel mauvais écrivain a plus de mérite que le plus grand réalisateur. Je sais pas,
c'est quelqu'un... Pourquoi vous n'êtes pas devenu écrivain alors,
Albert
Serra?
Je sais pas, j'étais paresseux, surtout que c'est beaucoup plus amusant d'être réalisateur. Alors je suis un peu corrupt, c'est la seule chose avec laquelle j'ai cédé un peu. Et j'ai décidé de faire du cinéma, surtout avec le numérique, parce que c'était vraiment drôle. Et on pouvait s'amuser d'une façon incroyable. Je pense que, surtout avec ma façon de travailler avec les numériques, les trois caméras, un système basé dans la non-communication où le chaos règne pendant tous les moments du tournage, comme on peut déduire ça de mes films, surtout du dernier aussi. Bon, je m'amuse de cette façon. Et je pense aussi que c'est une forme de connaissance des autres, de connaissance aussi de l'art, non? Le côté formaliste du cinéma, c'est vrai que ça devient plus important pour moi avec les derniers films, le côté un peu plus baroque, d'analyse d'images, etc. Avant, c'était plus simple, il y avait un côté émouvant, très simple, très primitif, très basique. Et maintenant, tout est plus, je sais pas, plus complexe, là, dans les images, je pense, non? Le mystère a grandi d'une façon inattendu, même pour moi. Alors, je sais pas. Mais Buñuel, le problème, c'est que lui, il a pas de, comme dire, personne l'a influencé. Aucun autre réalisateur, même, il l'a dit aussi. Et il peut pas influencer les autres personnes. C'est très difficile de trouver des disciples de Buñuel ou des personnes qui l'ont précédé. Alors, c'est vraiment des figures isolées. Et moi, je crois que tous les artistes ont un peu cet objectif de créer un style unique, personnel, qui n'est pas facilement adaptable, qui ne se tire pas d'une autre personne ou d'une autre esthétique. Et évidemment, moi je suis plus proche, pour des raisons géographiques, à Dalí, mais bon, c'est vrai que c'est une très grande collaboration entre les deux. Si je devrais choisir, je choisirais Dalí, mais pour des raisons personnelles.
Eh bien justement, vous allez écouter Salvador, qui était votre voisin. Nous allons écouter la voix de Salvador Dalí exprimer sa conception de la monarchie et de l'anarchie. Ça nous permettra de parler de vos opinions politiques. Albert Serra, nous écoutons la voix de Dalí. C'est une archive INA du 8 janvier 1978. C'était au micro de Pierre Boutan.
Je suis évidemment catholique, apostolique et romain. Et un peu roumain aussi, à cause de Ceausescu, que c'est un grand personnage. Et alors, je crois que la monarchie, c'est la chose la plus nouvelle et la moins complice de toutes celles qu'il a agitées.
Je le crois aussi profondément.
Je croyais, j'étais plus ou moins, j'étais anarchiste et monarchiste, mais je croyais que la monarchie, c'est une espèce de superstition. Et maintenant, depuis la découverte de la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique, ça prouve la transcendance et la vigence totale que depuis la première molécule vivante jusqu'au dernier de nos excréments, tout s'est transmis génétiquement.
Nous sommes encore dans l'hologramme, en somme. Nous sommes dans la totalité. Mais alors, bien sûr, j'ai aussi une idée de la monarchie, ça a beaucoup moins d'importance que la vôtre. Je crois qu'il faut bien faire attention, surtout quand, comme je le suis, on est monarchiste en croyant que c'est possible, pratique, de ne pas jeter le discrédit sur cette idée qui est éminemment réelle et qui est éminemment liée, d'ailleurs, à l'anarchie dont vous parlez. Les anarchies nécessaires. Je crois à la légitimité révolutionnaire. Je crois au prince qui serait le serviteur de cette légitimité. Mais ce que je cherche, c'est comment vous allez...
Tous les anarchistes étaient des princes.
Oui, mais tous les princes, malheureusement, n'ont pas été assez anarchistes, alors qu'ils étaient tout à fait libres de l'être.
Mais je préfère qu'il n'y ait pas de mélange. En haut, le maximum d'unité, et en bas, le maximum d'hétérogénéité.
J'ai bien envie
de mélange. C'est de la lutte, c'est pas la conciliation. C'est de la lutte des deux tendances qui naît un monde créatif.
Alors nous venons d'entendre la voix de Salvador Dalí qui s'exprimait avec Pierre Boutan. Pierre Boutan était un intellectuel catholique qui s'affichait à la droite la plus dure et qui s'affirmait monarchiste. Salvador Dalí est un génie à la fois sur le plan artistique, sur le plan de l'inventivité des mouvements artistiques, conceptuels. Il est reconnu, évidemment, dans le monde entier, particulièrement en Espagne, mais aussi en France, dans ce musée de Figueras. Il se trouve que on a vraiment l'impression physique, quand on a la chance de pouvoir visiter ce musée, de voir que Salvador Dalí et son épouse étaient porteurs d'un monde total. Salvador Dalí dessinait tout. Aussi bien son lit que la tasse de café qu'il prenait tous les matins, etc., etc. Qui est Salvador Dalí pour vous, Albert Serra?
Surtout, lui, il est un anti-bourgeois. Ça, c'est,
tout
c'est...
en étant très bourgeois.
Oui, je ne sais pas hein, jusqu'à quel point, parce que son obsession, c'était chaque minute de sa vie, chaque seconde, chaque jour, de faire les choses différemment dans les autres. N'importe quoi, les choses, de la chose la plus petite à leur dépenser, de penser, réagir. Et c'est ça qui lui donne un air très, très bizarre, parce que si vous écoutez cette émission qu'on vient d'écouter, elle est très spontanée et en même temps très artificielle. On a presque arrivé à voir une autre personne, surtout dans les émissions télé, émissions vidéo, de quelqu'un qui vraiment réagit avec en violence vraiment dans les yeux, dans la façon hyper spontanée, mais en même temps c'est en construction complètement artificielle. Alors ça c'est fascinant chez lui, il rentre vraiment un mystère très très profond. Évidemment, si on parle, je sais pas, des autres aspects de sa personnalité, sa sexualité, etc. Donc, tout est lié à ce mystère profond, mais c'est bizarre. Moi, j'arrive à comprendre un peu, mais après, il y a toujours l'humeur, non? Il dit des choses très visionnaires aussi. Il dit, je préfère l'unité en haut et l'hétérogénéité en bas. Après, il dit la monarchie, il fait un éloge de la monarchie, mais il dit, c'est une superstition. Il est toujours comme ça, non? Et moi, j'adore. Et bon, maintenant, il a été déjà très revendiqué comme écrivain, comme personnalité, je sais pas. C'est ce qu'il a aimé de mêler la catégorie avec l'anecdote, non? Normalement, pour les prestiges, les jeunes, non? Pour son propre prestige, aiment pas de mélanger ces deux côtés. Et lui, il le faisait tout le temps. Il adorait un peu provoquer avec ça, et de la banalité la plus absurde, la plus ridicule, en faire une théorie complètement, je sais pas, philosophique ou morale ou n'importe quoi. Lui, il est vraiment un personnage unique et très, très subversif. Non, même André Breton, dans les dernières conversations à la radio, il a reconnu qu'au niveau de mettre la subversion, non, cette vieux rêve de surréalisme dans la vie quotidienne, de la vraiment insérer, encadrer dans la vie quotidienne, lui, c'était le seul qui avait arrivé à essayer de le faire jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je trouve que ça, c'est un bon exemple, même personne ne peut le suivre à ce niveau-là, mais bon, c'est toujours un bon exemple pour être prête, pour faire des petits changements, pour améliorer, pour créer des choses, même dans les petits détails de la vie quotidienne.
Et vous êtes monarchiste ou anarchiste, Albert?
Moi, je crois que je suis plutôt anarchiste, oui. Parce que c'est la seule solution aujourd'hui. La monarchie aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises, les chefs des grandes entreprises, c'est la vraie monarchie. Et c'est vraiment une espèce de monarchie à côté de la dictature, très efficace. Je crois que seulement le désordre total et complet peut arriver à, je sais pas, à mettre un contrepoint à ce pouvoir extrême qui est devenu presque abstrait et très, 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 très dangereux et très, très douloureux. Pour la plupart des gens.
Vous aussi, vous aimez transgresser les règles. Vous aussi, vous aimez inventer de nouveaux langages. Vous aussi, vous êtes artiste, artiste cinéaste, évidemment, mais aussi artiste plasticien, oui. Puisque vos œuvres se retrouvent dans les grands musées du monde entier. Et quelquefois, des œuvres plastiques peuvent donner lieu à des nouveaux territoires cinématographiques. Donc, vous inventez de nouveaux langages en permanence. On le disait tout à l'heure, on vous a découvert il y a quelques années, c'était un éblouissement avec votre adaptation de Don Quichotte, Honneur de la Cavalleria, film poétique, fulgurant, film philosophique. Quand avez-vous lu la première fois Don Quichotte et combien de fois l'avez-vous lu, Albert Serra?
C'est un livre compliqué. Moi, je l'ai lu qu'une fois. Après, il y a des passages que j'ai lus et relus. Mais c'est un livre un peu... Il y a des moments un peu ennuyants quand il y a des petites histoires à l'intérieur, des petites histoires à l'intérieur. Alors, c'est un livre canonique, mais je sais pas, j'ai lu La Recherche deux fois, presque trois fois, tout entière, de la première à la dernière page. Mais Don Quichotte, c'est un livre... Plus, on y rêve plutôt qu'on le lit. Évidemment, on le lit, je sais pas, au niveau de langage, pour la langue castellane, c'est un monument. Je sais pas, c'est un livre, c'est une référence plutôt dans l'idéalisme, dans le cœur, qu'une lecture permanente dans ma vie.
En tout cas, vous aviez décidé...
Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai étudié la littérature, j'ai jamais étudié de cinéma, alors...
Vous n'avez jamais appris de cinéma?
Non. Alors,
Donc, vous avez pris la caméra pour...
Comme ça, oui.
Pour faire votre adaptation du Quichotte.
C'est ça. Peut-être assez cohérent, non? Moi, j'ai dit toujours que j'aimais, comme les Don Quichotte, c'était un peu l'idée du film, qu'il s'investit à lui-même, non? Il prend les petits outils qu'il a à côté, et il décide d'être chevalier, non? Il s'investit comme il a lu non, les livres de la chevalerie et décide de faire la même chose. Moi, avec les réalisateurs que j'ai aimés comme cinéphiles, et j'ai pris les petits outils à côté de moi, c'est-à-dire les petites caméras numériques au début et les jeunes qui sont autour, c'est-à-dire mes amis ou des jeunes comme ça. Et moi, je m'ai investi à moi-même comme réalisateur, mais sans rien d'autre, simplement avec l'amour aux autres films, les films des autres, comme Don Quichotte, il a fait pour l'amour à les livres d'autres personnes. C'est le même processus et j'ai aimé cette cohérence quand j'ai fait ce film et je trouve que c'est émouvant d'une certaine façon et qu'en plus ça, après, a décidé toute en carrière et peut-être toute en vie, pas seulement de moi, mais de certaines personnes à côté de moi, ça c'est assez, non? C'est cohérent avec cet idéalisme de Don Quichotte qui parfois peut changer les destins même des autres personnes.
En tout cas, c'était un film philosophique, un film sans aucun apparat, sans aucun décor, tourné en pleine nature, un film extrêmement profond, où s'échangeait à travers le dialogue entre les deux protagonistes une certaine idée de la vie. Est-ce que c'était aussi une certaine idée du cinéma que vous vouliez rénover?
Oui, à cette époque-là, non.
Partir de rien, aucun moyen technique.
C'est ça, c'est le même avec un peu l'imagination, non? L'idée de, par exemple, c'est assez bizarre, parce que avec les grands romans, avec les grands livres, on a trop de respect, non? Et à un moment de les adapter sur l'écran, parce qu'on croit que c'est déjà des monuments littéraires, alors on n'ose pas. Alors, les faire d'une façon différente, c'est pas évident, surtout avec des classiques très très, comment dire, très très vieux comme les Don Quichotte, non? Et bon, là, moi, j'ai choisi de tourner comme les entre-chapitres, les moments qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas racontés par Cervantes. Qu'est-ce qui se passe avec les deux personnages quand ils sont juste un moment avant que les chapitres commencent, juste après de la narration. Et avec tous ces morceaux, avec des petites, comme dire, traces ou signes du livre ou des personnages qui sont loin, qu'on entend, qu'on voit de très loin, on a construit ce monde vraiment intime, non, de les deux personnages, cette amitié. Et c'est beau aussi parce que c'était l'amitié aussi des deux acteurs qui ont joué les deux rôles principaux, qui est né au cinéma et qui a continué dans plusieurs films, il a évolué. Et un film, comme vous avez mentionné, que j'ai fait des films pour l'art, c'est vrai. J'ai fait un film pour la Biennale de Venise d'art, un film pour sans écran en installation, mais un film fiction. Et les deux personnages, ils se sont mariés, c'est-à-dire les deux acteurs, ils sont un couple gay, et ils se marient, et ils adoptent un enfant. Alors c'est vraiment tout un parcours d'amitié qui est dans l'écran, à l'intérieur, vraiment au cœur de l'œuvre d'art, qui a évolué. Et qui a évolué en parallèle à son propre amitié réelle, qui se confond vraiment, parce que j'ai vécu avec eux, je sais pas, plein de voyages, après dans les festivals, etc. Et c'est une amitié qui se confond totalement avec les films qu'ils ont faits, qui comme ça évolue dans l'écran et comme a évolué à l'extérieur de l'écran. Et c'est très, très bizarre, et cette film, c'est très, surtout pour mes fans, ou les fans de mes films qui connaissaient bien tout mon travail, c'est très émouvant.
Mais c'est vrai que vous avez des fans. Nous faisons partie de vos fans, Albert Serra, car vous nous surprenez toujours par l'audace cinématographique, par l'audace intellectuelle, par cette odeur de soufre qui vous accompagne souvent. Vous avez donc commencé par Cervantes. Ce film a été reconnu et primé dans le monde entier. Ça vous a donné la possibilité de continuer un peu ce que vous aviez commencé par hasard, c'est-à-dire le cinéma. Mais vous faites celui qui ne connaissait pas le cinéma. En fait, vous êtes un super intello. Vous avez écoutez,
on pourrait dire que j'aime lire et j'étudie de la littérature.
Vous aimez lire, mais vous aimez aussi les films du patrimoine, comme on dit. Rossellini, vous connaissez.
Oui, je connais toutes. Mais maintenant, je dois avouer que
vous êtes très cultivé. Vous faites celui qui ne l'aide pas, mais vous l'êtes super cultivé.
J'ai fait que ça à l'époque où il n'y avait pas de portable, où il n'y avait pas presque de télé, où il y avait un seul télé à les maisons, alors il n'y avait pas beaucoup de distractions. Alors, tu pouvais te concentrer vraiment sur tes intérêts, et si c'était la littérature ou le cinéma. Il y avait moins de moyens pour voir le cinéma, parce qu'il n'y avait que la cinémathèque ou peut-être la télé.
Enfin, faites pas celui qui a l'âge de Mathusalem, vous avez quel âge?
Bon, 43. Mais bon, quand, alors... quand j'ai fait toute cette condition, quand j'ai regardé tous ces films, c'était surtout quand j'avais, je sais pas, de 16, 17 jusqu'à 25. Et à cette époque-là, il n'y avait pas tout ça. On assimile les contenus de tous ces films d'une façon peut-être légèrement différente qu'aujourd'hui, que ça se passe d'une façon plus légère sur notre tête, sur notre corps. Et peut-être on les assimile différemment. Mais après, j'ai arrêté, c'est ça que je voulais dire. Je regarde plus de films maintenant, parce que ça m'influence, je pense que ça me va influencer d'une façon, si je vais dans les festivals, mais je vais presque jamais au cinéma, c'est le même des réalisateurs actuels que je connais, que je suis intéressé à ce qu'ils font. Mais à part de ça...
Vous lisez
que, oui, lire, c'est la littérature, c'est les infos, des choses, non, de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais c'est surtout à travers du livre et la musique un peu. Mais pas le cinéma strictement maintenant. Oui, je suis obsédé pour le cinéma, obsédé pour les images, pour l'analyse, pour créer des images, pour analyser mes propres images, mais d'une façon tellement, comme dire, formaliste, tellement fermée dans mon propre évolution esthétique, que c'est très rare qu'il y ait des choses qui puissent, des autres images qui puissent enrichir ce parcours. C'est vraiment très, très rare, et c'est seulement avec deux, trois réalisateurs que j'aime que j'y vais au cinéma, mais pas beaucoup, pas très souvent.
Alors, si je faisais allusion à Rossellini, c'est parce que vous êtes distingué il y a très peu de temps, c'était il y a 2 ou 3 ans. Vous avez été en sélection officielle au Festival de Cannes,
oui.
comme au printemps dernier, pour un film qui nous avait tous frappés, qui s'intitule « La mort de Louis XIV ». Je vous propose d'en écouter un court extrait, et puis ensuite un court extrait de Jean-Pierre Léo, qui interprétait Louis XIV en toute majesté alors qu'il était en train de mourir.
Tous ces lapins, cette alimentation de fruits trop mûrs ne paraît pas profitable à la santé de sa majesté.
Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain docteur Lebrun? Il paraît qu'il a des remèdes miraculeux.
À la vie ou à la mort?
Sa Majesté semble souffrir de fièvre. Nous ferons tout notre possible, si.
Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Soyez-en de paix avec vos voisins. Faites-le honorer par vos sujets. Tâchez de soulager votre peuple. Mon enfant, vous serez un grand roi.
Tellement un acteur que ça se voit pas. Il s'agit d'être juste, profond et précis au moment donné et d'avoir un espèce de plaisir jubilatoire que j'ai eu sur ce film de Serra en jouant, il y a 500 ans, en jouant par répétant avec la même méthode qu'avec Jean Eustache, parce que bon, je sais que Serra c'était un quelqu'un qui allait débarquer et faire quelque chose d'intéressant, parce que j'avais vu ses premiers films. J'ai appris, j'ai retrouvé la même jubilation, parce que je connaissais tout le texte par cœur au moment de jouer. Et ça a duré comme ça pendant 3 semaines dans un huis clos qui était le lit d'un homme qui était en avant.
Nous venons d'entendre un court extrait de votre film Albert Serra, La mort de Louis XIV, suivi d'un extrait d'un court entretien que nous avions eu la chance de pouvoir faire avec Jean-Pierre Léo au moment où il était venu au Festival de Cannes. Film admirable que cette mort de Louis XIV, film construit en long plan séquence, film philosophique, encore une fois, qui parle du pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi un corps. Le pouvoir, c'est aussi un corps corruptible. Le pouvoir, Louis XIV a eu beau l'incarner, un jour il est mort. Et ce film, finalement, annonce celui qui va sortir sur les écrans en ce moment même en France, qui s'intitule Liberté, parce qu'il est question de l'immobilité. Pourquoi vous avez décidé de revisiter cette histoire cinématographiquement déjà magnifiquement restituée par Rossellini et Albert Serra?
Je sais pas, c'était un projet qui venait un peu de loin, on devait le faire comme performance au musée Pompidou, après ça a été annulé. Et bon, avec Jean-Pierre, depuis que je l'ai connu, je l'ai beaucoup aimé comme personne, alors beaucoup respecté. Et bon, après on s'est dit on va le faire, mais en gardant un peu cette idée de Louis Clos, de la performance, l'idée de c'est tout le temps d'unité d'espace, temps, action, et vraiment se concentrer sur lui, non, pour créer une figée, non, une espèce de image de Louis XIV pour toujours. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer que quelqu'un d'autre dans le futur du cinéma puisse aborder les mêmes sujets ou les mêmes personnages avec un autre acteur et qui puisse avoir les mêmes côtés émouvants qu'on retrouve dans ce film. Et pour moi, ça suffit pour ça m'a donné beaucoup de plaisir de tourner avec lui. En plus, c'était important pour moi parce que, j'avais jamais travaillé avec des acteurs professionnels. J'avais jamais abordé, un film, comme dire, pas plus conventionnel, mais avec des sujets un peu plus concrets, un peu plus, non, avec un scénario légèrement plus strict, etc. Et je me suis rendu compte que c'était très facile, et alors ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai vu que c'était possible pour moi de faire n'importe quel film, en gardant la pureté toujours. Et même avec, non, la sexualité, les côtés, je sais pas, de sexe explicite ou dernière. Non, maintenant, je sens que je peux tout faire. Et avant, je sentais au début de ma carrière que j'étais un peu, non, dans les côtés minimaliste, même si c'était du minimalisme grandiose, mais j'étais comme un peu enfermé dans cet style. Mais maintenant, je sais pas, le côté baroque a rentré dans mon style et ça l'a enrichi d'une façon très grande, je pense, et en même temps mon autoconfiance aussi. Je sais pas, je suis ouverte à faire n'importe quel film, non, à vraiment imaginer ce que j'ai déjà fait un peu avec les films qui sont plutôt pour comme installation et pour le monde de l'art contemporain, où je travaille toujours avec des acteurs, avec des histoires. Alors le processus de fabrication, c'est exactement le même, c'est après que bon, on les montre dans les musées parfois avec 2-3 écrans, mais le processus de fabrication, même si c'est un peu plus audace, mais c'est presque le même. Alors moi, je me sens maintenant très très, comme dire, je sais pas, je suis très sensible à créer n'importe quelle image.
Vous connaissez Mylène Farmer, Albert Serra?
C'est qui?
Ben écoutez.
Tiens la main. Larmes. Laissez-moi vous décrire un plaisir particulièrement bienfaiteur pour moi. Le comte m'aidera à le réaliser bientôt. Il viendra avec un animal, un jeune veau. Je plongerai mon tison dans ses narines, bien profondément. L'animal sera fou. Il me lèchera les bourses. Vous vous représentez la scène? Oui?
Oui.
Et alors, quelle part prendrez-vous au spectacle?
Je maintiendrai fort la tête de l'animal pendant que vous le fourrez. Et je soutiendrai d'une autre main son gros membre bien disposé.
Vous avez peu d'imagination, pauvre fille. Mais très bien, si c'est ce que vous voulez.
Nous venons d'entendre donc un court extrait de ce nouveau film qui sort sur les écrans en France après avoir été récompensé au Festival de Cannes, qui s'intitule Liberté. Il est en droite ligne avec vos autres films, Albert Serra. Ce film évoque le libertinage, cette discipline érotico-maniaque qui a été érigée en forme de philosophie, qui a été notamment illustré par l'œuvre de Sade. Je crois que ce film, qui d'ailleurs a beaucoup divisé la critique cinématographique à Cannes, personnellement je l'ai vu en première vision presse et j'ai vu les trois quarts de mes camarades quitter la salle parce que soit ils étaient choqués par vos images, soit ils étaient impatients de voir un film qui parlait de choses événementielles. Chez vous, apparemment, il ne se passe rien, si ce n'est la montée d'un désir qui, finalement, n'arrive pas à s'exacerber.
Ouais.
Comment est venue l'idée de ce film qui s'intitule « Liberté » ?
Bon, l'idée, c'est que c'était une adaptation déjà d'une pièce de théâtre que j'avais fait à la Volksbühne à Verlan, avec Chris Dercon, qui est maintenant ici au Grand Palais. Là, c'était l'idée de, comme dire, de travailler sur le 18e, le libertinage, mais d'une façon assez innocente, assez, non? On a apparemment ce décor inoffensif, oui, avec un petit peu de perversion, un petit peu de détails, etc. Mais, il devait y avoir rien d'étrange. Après, petit à petit, à la Volksbühne, le théâtre, tu sais, c'est très compliqué, c'est très conventionnel, et c'est très difficile de créer du vrai mystère dans les théâtres, parce que, non, c'est tout basé sur les acteurs, bon, c'est notre langage. Mais avec les cinémas, les films, j'ai pensé qu'avec les images, on pourrait vraiment, je sais pas, à cet apparent décor du 18e, pervers, etc., y ajouter quelque chose de plus sombre, même plus contemporain, ou que cette espèce d'ambiance contemporaine, l'arriverait inévitablement à remplir un petit peu les images. Et ça, c'était un peu mon objectif quand j'ai décidé de faire le film. Je ne savais pas comment faire ça. Mais bon, on a pris les gens, on a pris les acteurs, on est allé là, comme dans tous mes films, avec les trois caméras, avec un espace unique qui s'est tourné pendant, je ne sais pas, trois semaines, toutes les nuits. Et bon, petit à petit, je crois que cette ambiance, ça s'est transformée, non? La narration 18e, sympa, un petit peu pervers, comme vous avez écouté dans ce dialogue, c'est devenu progressivement plus trash. Et dans cet espace de cruising, cette espèce de forêt, non, chaque fois qu'on avance un peu, qu'on trouve une nouvelle action, on ressent qu'on s'approche peut-être dans la sensibilité, dans certains petits détails, dans petits gestes, à un monde légèrement plus contemporain. Et c'est ça qui m'intéressait, non, de je sais pas, voir le désir avec évidemment, non, ces images du passé, mais de la perversion du passé, de cette subversion du passé, du libertinage, mais avec les yeux un petit peu d'aujourd'hui, avec la sensibilité légèrement d'aujourd'hui. Et je crois que le film a cette petite complexité à l'intérieur, et j'aime ça. C'est ce qui me plaît plus du film. Et je trouve ça très original, parce qu'on ne bouge pas. On est dans les mêmes forêts, avec les mêmes personnages, les mêmes costumes et tout ça, mais on ressent qu'il y a différentes sensibilités qui sont arrivées. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a cette frustration permanente. Un ami à moi, il veut dire, c'est comme la peinture de Goya, les désastres de la guerre. Et j'ai dit, ah oui, c'est très bien, c'est les désastres du désir. Alors c'est une espèce de... Mais en même temps, je ne sais pas, peut-être c'est trop sombre, vous avez raison, c'est trop noir, je ne sais pas. Comme tout mon système, surtout avec des, non, quand il y a la sexualité, tout mon système, c'est presque toujours basé sur la non-communication, non-communication avec les acteurs, même non-communication avec les techniciens, c'est une espèce de principe. Non, la signification ou même l'intention qu'il y a derrière les images, c'est très difficile d'établir pendant les tournages. Alors, ou même avant. Alors, tout ce qui arrive, c'est un peu, non, c'est vraiment créé, là. À ce moment-là, et d'une façon, comme une espèce de génération spontanée. Et bon, je crois que c'est un reflet, une espèce de miroir assez fidèle à quelque chose qui se passe vraiment dans la tête et dans le cœur, surtout des acteurs, non, qui sont en face de la caméra.
En tout cas, c'est un film en costume, comme l'était La mort de Louis XIV. Oui. C'est un film, là aussi, construit sur la beauté des plans séquences. C'est un film qui se passe dans une forêt, comme l'était au nord de la Cavalleria. Mmh. C'est un film qui parle de l'ombre et de la lumière. C'est un film qui part dans la direction de la noirceur de l'âme humaine et du non-dit, comme souvent dans votre propre parcours cinématographique, Albert Serra. C'est un film aussi politique, j'ai trouvé, parce que il met en scène une aristocratie très exsangue, très fatiguée, qui passe son temps à essayer d'avoir du désir et qui n'y arrive pas.
Oui, mais qui en même temps, il essaye de vraiment de créer une philosophie autour de soi, autour de ça. Et je trouve ça assez subversif. L'idée de l'aria de cruising, non, comme on la comprend aujourd'hui, des changistes, tu sais, des changistes, que aujourd'hui c'est plutôt lié à le monde gay en général, mais bon, pas en France, mais en général, le concept de cruising, c'est lié où il y a des rencontres furtives, etc. Mais ça, c'est une idée aussi très politique, parce que tout le monde se mélange, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de... je sais pas, de gays ou de beaux et de moches, il n'y a plus de vieux ou de jeunes, il n'y a plus des hommes ou des femmes. Alors là, c'est vraiment les désirs, mais l'idée de donner les désirs. Il y a un moment où le personnage, quand il est fouetté, il dit donner, il demande toujours de donner, pas de recevoir. Non. Et je trouve que ça, c'est assez, comment dire, assez subversif. Aujourd'hui, tout le monde parle de droite, ce qui est évidemment très correct et très bien. Mais en même temps, l'idée d'être généreux et donner, non, avec les désirs et pas recevoir.
C'est les femmes qui donnent et c'est les hommes qui essayent de recevoir. D'ailleurs, ils sont pas très vaillants.
Hein. Oui,
ça bande mou, du côté de l'aristocratie.
C'est vrai, mais il y a cette côté décadent. Et moi, j'aime aussi ça. C'est très difficile à définir, parce que c'est comme vous disiez, il y a le côté décadent de l'aristocratie, une décadence permanente, avec un désir qui n'arrive pas à rien. Et en même temps, il y a comme une espèce d'idéal qui est là, l'idéal du libertinage. Nous sommes tous égaux. Il y a un moment aussi un personnage qui dit nous avons tous les mêmes organes, la même façon de les utiliser. Alors, je ne sais pas. Dans cette hésitation, je pense que du point de vue politique, le film trouve une complexité intéressante. Et peut-être il y a l'égalité, c'est impossible, non? Quand on parle de corps et on parle de désir, alors bon, c'est toujours un échec, non? Et en plus aujourd'hui où l'intérêt c'est toujours mêlé, non? Ou quand les corps sont rentrés dans le capitalisme, dans les marchés, non? Et les relations interpersonnelles, non? Ils sont toujours très traversés, non? Pour l'intérêt, même l'intérêt économique. Alors, je sais pas. Et là, je pense que les films, il y a un petit miroir de tout ça d'une façon inconnexe, un peu chaotique, mais très, très, très profonde. Il y a une vérité de ça dans les films.
Je vous propose d'écouter la voix de Pier Paolo Pasolini à propos du religieux. Nous n'oublions pas que Pasolini a été le seul cinéaste Maintenant, il y a Albert Serra, qui est là en face de moi, mais ça a été le seul cinéaste à adapter le Marquis de Sade. Nous écoutons sa voix, c'est une archivina du 7 novembre 1976.
On peut dire que, dans toute votre démarche, vous êtes une, disons, un esprit religieux dans une intelligence athée. La pierre de touche de tout ce que vous avez fait jusqu'ici.
Oui, c'est cette formule. C'est la meilleure entre toutes les formules qu'on a employées pour nous. C'est une formule de toute façon mieux que les formules qui parlent du marxisme, du catholicisme, etc. Oui, c'est une formule. Peut-être que je pourrais la modifier un peu et parler d'esprit rationnel au lieu d'esprit athée.
L'esprit religieux est d'origine psychologique. C'est l'attitude de vénération, de terreur, de respect de l'enfant vis-à-vis de ce que l'on appelle la scène originelle. Cette expression est employée par les historiens de la religion ou les psychanalystes pour désigner l'accouplement des parents. Ainsi, dans l'imagination de l'enfant, on trouve l'extrapolation visionnaire de la mère douée du pénis et du père doué de l'utérus. Et cette scène originelle, la première enregistrée par la conscience de l'enfant, est celle qui a créé en moi un certain traumatisme et donc une attitude religieuse face à la réalité tout entière. Elle est donc plus psychologique qu'animiste. Il est clair que mon genre de religion ne prend pas en considération la religion catholique ni aucune religion confessionnelle parce qu'elles sont précisément une manipulation, une confection de ces deux derniers siècles, ce qui ne m'intéresse nullement. J'ai donc tendance à me sentir apparenté à ces types de religions qui sont proches de la religion des enfants.
La religion des enfants, c'est magnifique ce que vient de dire Pier Paolo Pasolini, Albert Serra. Oui. Vous êtes de ce côté-là?
Oui. Il y a une constatation qu'il existe un désir presque dans tous les hommes. C'est très difficile à imaginer une personne, un enfant sans désir. Alors, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que on pourrait vivre avec ce désir d'une façon harmonieuse. Je sais pas si dans le monde de Gauguin, là, en Polynésie, je sais pas, il y a un désir qui est parfaitement harmonieux des uns avec les autres. Je sais pas, un monde idyllique qui n'a connu pas de religion, qui a connu pas de contraintes. Mais en même temps, c'est intéressant quand, dès que la religion arrive, et il décide que ce désir, la seule solution de gérer ce désir, qu'on voit qui c'est un peu, comme dire, instable, dangereux, etc., c'est avec la répression. Et ça va créer une, parce que on pourrait avoir pensé, non, c'est pas avec la répression, ça sera avec les données, je sais pas, plus de liberté, ou de l'accepter tel qu'il est, ou, non, il y aurait des autres solutions pour gérer ça. Mais dès qu'on arrive quelqu'un, la religion dans ces cas, je sais pas, on va pas discuter les motivations, mais qui décide, ah non, c'est avec la répression qu'on va gérer ça. Alors, ça ouvre un autre monde d'une autre complexité, d'une autre, comme dire, je sais pas, des problèmes qu'on pourrait jamais imaginer qu'on pouvait avoir. Et si on avait resté dans l'innocence, dans la pureté, non, de vivre ses désirs d'une façon simple et innocente. Mais en même temps, ça va générer toute une histoire non philosophique, tout un contenu pour l'histoire de l'art, un contenu peut-être beaucoup de souffrance aussi, il faut l'avouer. Mais je sais pas, dans cette souffrance qu'on arrive à nous connaître ou à connaître des liens dans notre être qu'on pourrait avoir pas connu d'une autre façon. Et moi, je remercie c'est Buñuel qui disait je suis athée grâce à Dieu. Mais je remercie un peu d'avoir pu, parce que qu'on a connu, d'avoir pu connaître la répression. Parce que ça génère, je sais pas, des sentiments très différents, très forts, qu'on peut pas arriver à connaître d'une autre façon. Alors, je sais pas, c'est aussi, on apprend beaucoup de choses de nous-mêmes à travers de ça. Peut-être, évidemment, on n'est pas dans le monde idyllique. Comme j'ai dit, ça peut donner des souffrances, mais on gagne des choses aussi.
J'espère que vous allez continuer à faire du cinéma.
Oui, j'espère aussi. Oui. Maintenant, comme je vous ai dit, je pense que je peux tout aborder, tous les sujets, tous les genres des films, en gardant toujours la pureté. Mais que je suis capable de travailler avec des matériels de base très différents et très hétérogènes.
Merci beaucoup, Albert Serra. Votre nouveau film s'intitule Liberté et il sort sur les écrans en ce moment même en France.
Merci.
is folding up as the memory kisses you goodbye. It's better to live with melody and have an honest time. Isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure and in love in the corner in blue. Is my name in the corner? Fixture.
C'est avec Aldous Harding que nous nous quittons ce soir. Merci à Charles Leca qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Adrien Nazellier et Louise Douillet. Et merci évidemment à Lilian Alaume qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Good Trip.